C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Dandigue. Auteur Roger Vitrac, dramaturge, écrivain, journaliste, 1899-1952, français, hétérosexuel. Œuvre Victor ou les enfants au pouvoir, pièce de théâtre, 1928. Personnage Victor. Interprète à sa création Marc Darnaud en 1962, lors de la reprise qui assura son succès Claude Rich. En 2012, lors de la plus récente reprise au théâtre de la ville, Hugues Kester. Avant de parler du personnage, parlons de son créateur. Roger Vitrac n'est pas excessivement connu, même si on ne peut pas le dire oublié, et s'il ne l'est pas, c'est grâce à son personnage. Roger a inventé Victor qui lui a donné la main pour le maintenir dans nos mémoires. On se tue à créer et parfois la création sauve de la mort. Stendhal a eu une vie assez banale, mais il a inventé Julien, Fabrice, Octave et quelques autres qui perpétuent son imagination dans les nôtres. Roger Vitrac, natif du Lot à la fin du 19e siècle, arrive à Paris avec sa famille, une famille bourgeoise très désargentée, à l'âge de 10 ans. Il étudie au lycée Buffon. En 1921, à 20 ans, il participe à une manifestation dadaïste dans le jardin de l'église Saint-Julien-le-Pauvre au quartier latin. L'affiche disait « Les dadaïstes de passage à Paris, voulant remédier à l'incompétence des guides et de cicérones suspects, ont décidé d'entreprendre une série de visites à des endroits choisis. Prendre part à cette première visite, c'est se rendre compte du progrès humain, des destructions possibles et de la nécessité de poursuivre notre action. » Le texte était signé entre autres Louis Aragon, André Breton, Francis Picabia, Georges Ribemont de Seigne, Philippe Soupeau et Tristan Tzara. La manifestation est un échec, mais Vitrac y rencontre tout le monde. Il écrit des poèmes, une pièce de théâtre, participe au dernier hockey du dadaïsme mourant et se rallie aux surréalistes. André Breton, fils de gendarme, resté gendarme, l'exclut du mouvement comme Antonin Artaud. Et la grande aventure de Vitrac, c'est avec Artaud. Avec lui et Robert Aron, ils fondent le théâtre Alfred Jarry, qui ouvre dans les locaux du théâtre de Grenelle dans le 15e arrondissement en 1927, par une pièce de lui et d'Artaud. En décembre 28 et non 29, comme nous le disent les encyclopédies en ligne, une de ses meilleures pièces est créée par ce même théâtre Alfred Jarry, cette fois-ci sur la scène de la Comédie des Champs-Élysées, dans une mise en scène d'Artaud. Il y avait dans la salle Arthur Honegger, Abel Gance, André Gide, Man Ray et Bérénice Abbott. Malgré les craintes ou les espoirs de scandale, à la Hubu Roy, Victor ou les enfants au pouvoir tombent à plat. C'est aussi l'année où se crée, à quelques rues de là, la très banale et très bien accueillie pièce de Giraudoux, Siegfried. Le banal ressemblant au plus grand nombre, il est logique qu'il triomphe, surtout quand, comme chez Giraudoux, il est orné de rubans dorés qui peuvent être confondus avec la poésie. Ne réussissant pas à gagner sa vie par le théâtre, Vitrac se fait journaliste et c'est à une reprise posthume de sa pièce en 1962 que le triomphe a lieu. Son squelette n'en a pas joui, nous, si, enfin naissait Victor, personnage unique dans le théâtre français, d'un enfant qui pose des bombes morales, Victor, enfin victorieux. Pour parler de Victor, je reçois Jean-Michel Ribe, auteur dramatique, cinéaste, directeur du Théâtre du Rond-Point et qui crée les Topors, les prix de l'inattendu, qui seront remis au Théâtre du Rond-Point le 9 avril. Jean-Michel Ribe, à quoi ressemble Victor ?
Victor, c'est le personnage du théâtre qui tout d'un coup ne donne pas de leçons, mais ouvre une voie absolument faramineuse qui est celle de la destruction absolue de la psychologie, de la destruction absolue de ces espèces de ce qu'on appelle la dramaturgie, c'est-à-dire ces scènes qui s'enchaînent les unes après les autres, avec la logique, la cause à effet, les rebondissements. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a une liberté de narration, une liberté de dire, qui est extraordinairement non seulement jouissive, mais qui nous permet de comprendre des choses et d'aller dans des territoires que le théâtre jusque-là ne nous avait pas fait découvrir.
Que se passe-t-il, Jean-Michel Ribe ? Parce qu'il faut quand même dire que ce Victor, dans la pièce, a 9 ans, que ça se passe le jour de ses 9 ans et qu'il mesure 2 mètres.
Voilà.
Alors que se passe-t-il dans la pièce ?
Ce qui se passe dans la pièce, je trouve, c'est tout d'un coup la représentation de la destruction du monde. C'est la représentation tout d'un coup, justement, de cette espèce de bourgeoisie généralisée qui s'est emparée au 19e siècle d'à peu près tout le théâtre français et tout, même si Feydeau, Labiche et autres l'ont fait rigolo. Mais c'est tout d'un coup une espèce de déstructuration de l'art dramatique et en même temps, c'est un enrichissement magnifique parce que il y a des coq à l'âne, des sauts, des tout d'un coup des répliques qui n'en sont plus, des, je veux dire, l'exemple mieux, c'est quand il raconte à l'envers sa rédaction d'école, il l'a dit à l'envers en répliquant à une chose qui n'amène absolument pas ça. Je crois que c'est surtout quelqu'un qui nous montre que par rebond, sursaut, rupture, c'est ça qui nous guide, c'est la surprise permanente qui nous emmène avec délice dans des histoires, des territoires et un langage tout à fait nouveau et tout à fait magnifiquement à la fois captivant, drôlatique et tragique.
En fait, il soupçonne, il y a des vrais personnages autour de lui, il y a son père, sa mère, etc. Il soupçonne dès le début son père d'avoir une liaison avec une femme et il décide de casser cette hypocrisie-là.
Oui, mais ça, c'est une... Je sais que tous les manuels d'école, toutes les analyses, etc., font une grande analyse dedans. Et voilà, c'est... il détruit l'adultère, etc. C'est comme si c'était un personnage moraliste. Pas du tout. Je pense pas que Victor soit un personnage moraliste. C'est un personnage explosif. C'est un personnage qui réduit à rien la morale. Quand tout d'un coup, il dit à la bonne, je vais casser ce verre ou cette potiche et je vais dire que c'est toi... qui l'a cassé, et tu ne pourras rien dire parce que moi je suis le fils du patron et que je suis très très intelligent ou pas. C'est plus du tout une volonté d'aller contre l'hypocrisie, puisqu'il est lui-même, je dirais, d'une cruauté incroyable. Je crois que c'est casser tous les réflexes de la morale, tous les réflexes du bon goût, tous les réflexes de ce à quoi on s'attend. Voilà. Victor, c'est l'envers de ce à quoi on s'attend, et c'est ça qui est formidablement jubilatoire. C'est Picabia, c'est etc. Aragon, c'est quelqu'un qui creuse des galeries vers le ciel, etc. Oui, alors évidemment, que Artaud mette en scène cette œuvre est évidemment naturelle, parce que non seulement il y a le chaos. Je dirais presque les prémices du théâtre de la cruauté, mais il y a aussi et surtout assumer des gens fous et qui le disent. Dit je suis fou. Et évidemment, quand on connaît Artaud et le destin d'Artaud, il y avait là quelque chose, une vraie rencontre. Je veux dire, il y a une approche directe et très drôle d'ailleurs, mais directe de la folie. Et je pense que là, quand même, Artaud a dû avoir une espèce de symptôme de reconnaissance dans ce discours-là.
Oui, bien sûr. Vous parliez, alors, je m'assure bien que vous avez employé l'expression « mauvais goût », Jean-Michel.
Oui, absolument.
Voilà. À propos du mauvais goût, il y a le personnage extrêmement drôle de Ida Mortemart qui est la pétomane, et voilà une chose qu'on n'attend pas, et qui est un personnage à la fois poétique, étonnant, et où le mauvais goût est utilisé comme moyen esthétique, finalement.
Oui, mais je crois surtout qu'on n'attend rien. C'est-à-dire qu'on n'attend pas Madame Mortemart, on n'attend pas non plus tout ce qui se passe, la bonne qui rentre, qui sort, que l'un se pende, que l'autre, le général arrive et dit commence à chanter des chansons militaires. On n'attend rien. Alors évidemment, on attend encore moins quelqu'un de très distingué et qui se met à péter. Et à péter souvent. C'est irrésistible. C'est irrésistible parce que tout d'un coup, ça, on ne peut pas faire plus que de faire imploser l'espèce de bon goût, je le redis, ou en tout cas de morale bourgeoise. Un P est quand même quelque chose qui détruit plus qu'un coup de canon cette bourgeoisie-là.
Mais c'est-à-dire que c'est à double détente, n'est-ce pas ? Ça se moque à la fois des conventions bourgeoises, mais aussi des conventions théâtrales, parce qu'il n'est pas tout à fait...
Oui, et ça se moque même d'une troisième chose, c'est l'apparition toujours très... très mystérieuse, mais on sait bien que c'est la mort qui arrive, etc., etc. Et là, la mort, elle pète. Donc, même la mort en prend dans la gueule. Et ça, je trouve ça assez bien.
Alors, il y a une chose qui est très frappante dans l'inattendu de la pièce, puisque vous le disiez, on n'attend rien du tout et on va de surprise en surprise, c'est que finalement, le père de Victor, au début, veut que son fils soit sous-préfet, dit qu'il incarne des bonnes valeurs républicaines et radicales. On pourrait s'attendre au contraire que, en quelque sorte, ça soit une pièce de gauche et qui s'assure de ce côté-là. Or, pas du tout, Vitrac se moque même de la succession des révolutions dont flatte le père.
Bien sûr, mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est une pièce qui hors tout. C'est-à-dire, c'est une pièce qui n'est ni de gauche ni de droite, qui n'emploie même pas de vocabulaire. C'est une pièce qui rassemble tous les clichés et toutes les données des partis politiques, de la morale, de la religion, de la psychanalyse même, et qui les fait imploser en les mettant ensemble. Et je crois qu'il y a une chose qui est très importante dans Victor, puisqu'on parlait de surprise, et c'est ça qui nous fait avancer dans la pièce sans arrêt, en dehors du fait que c'est irrésistible, c'est la notion de rupture. Et cette notion de rupture, c'est quand même la base de deux choses. D'abord, je pense, c'est la base du comique absolu, c'est-à-dire tout d'un coup, quelqu'un qui répond « banane » alors qu'on lui parle de Nietzsche. Et la deuxième chose, c'est quelque chose qui, évidemment, met en place avec toute l'approche de l'écriture automatique, met en place quand même Beckett, Ionesco, Dubillard, etc. C'est-à-dire que moi, je suis frappé, j'ai été frappé en lisant la pièce, de la proximité avec Beckett. C'est très étonnant. C'est-à-dire, il y a un moment, quand Beckett fait une pièce, le comble du rien, c'est-à-dire qu'il ouvre le rideau, il n'y a rien, il le referme et c'est fini, il y a quelque chose dans la volonté d'anéantir tout ce qui reste d'un théâtre qui, depuis Eschyle, ne se renouvelle pas beaucoup, sauf par quelques bons mots des uns et des autres. Il y a quand même quelque chose là, dans la volonté radicale de passer à autre chose, qui est déjà dans Victor. Parce que dans Victor, il y a quand même des répliques où on se dit, mais pourquoi il dit ça? Et après, on comprend, c'est ahurissant. Il y a des paquets d'ailleurs qui viennent se mettre dans une réplique et dans un moment, et je trouve ça fascinant. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est comme si il y avait un mélange, un collage de tas de choses différentes et qui reconstitue finalement une pièce sans pour autant se servir d'une logique dramatique. Si, il y a la petite base de l'adultère et de la famille qui se détruit, mais ça dessus, on rebondit avec des pétards et des feux d'artifice qui viennent d'ailleurs, et c'est absolument réjouissant.
Des pétards, mais il faut quand même dire que c'est une pièce macabre dans le meilleur sens du terme. Moi, je trouve que le macabre, c'est très bien, c'est pas du tout la même chose que le funèbre, car quand même, Victor meurt à la fin.
Il n'y a pas que lui.
Non, pas que lui.
Il y en a qui se branlent, ses parents se tuent, etc.
Se tuent, oui.
Non, mais il a très jolie réplique de la bonne à la fin qui regarde, qui voit tous ses gars, et qui soudain dit « Ah, c'est un drame ». C'est là encore extrêmement drôle et c'est surtout déstabilisant et c'est surtout je pense aussi que c'est une pièce qui lutte pied à pied à chaque réplique contre l'esprit de sérieux tout le temps. C'est-à-dire cet esprit qui d'ailleurs pardon, je pense qu'il y a une universitaire magnifique et extrêmement talentueuse qui a fait une énorme préface et tout ça et je pense que c'est l'envers. Ça me rappelle quand un metteur en scène que je nommerai pas m'avait expliqué qu'il avait monté La Cantatrice Sauve en expliquant tout, pourquoi c'est le pompier, alors que c'est du théâtre qu'on ne doit pas expliquer, c'est ça sa saveur. La volonté de comprendre, je veux dire, si on comprend, ça ne doit pas être terrible, parce qu'on n'est pas formidable. Donc si on comprend, alors que si on nous jette ailleurs, si on nous enlève, si on nous fait sauter dans le vide et que tout d'un coup on découvre d'autres planètes, c'est ça, Victor.
Mais d'une certaine façon, est-ce que vous ne pensez pas que Victor n'est pas français? C'est une pièce française, un personnage français, mais il n'est pas français dans le sens où c'est pas un jardin à la française, précisément, où tout est ratissé, où tout est expliqué, et voilà, c'est un personnage anti-français.
Je dirais pas ça, parce que je pense quand même qu'à cette période-là, les Français ont apporté quelques personnages, un bataillon de gens qui ont lutté contre la raison raisonnante, contre le néo-descartisme, contre le jardin à la française, qui sont...
Il y avait eu les Mamelles de Tirésias avant ça.
Oui, enfin, Apollinaire, c'était un dieu, mais il n'y a eu pas eu que ça. Il y a eu Zara, il y a eu...
Zara n'a pas fait de théâtre, hein, pour pas m'en parler.
Non, mais il y a eu quand même des gens qui, dans leur... Si, il a écrit une pièce, Zara, qui dans leur approche du monde, n'étaient pas, comme on pourrait dire, français. Je veux dire, moi, je me suis beaucoup intéressé à Arthur Cravant, à Jacques Vacher, à Jacques Rigaud, à des gens comme ça, qui ont écrit des choses aussi, on ne peut pas dire qu'ils étaient français. Mais finalement, ils étaient français parce que le dadaïsme, même s'il est né ailleurs, le dadaïsme s'est quand même répandu comme une issue de secours dans un territoire de littérature confinée et de théâtre totalement alangui dans le consensus, d'une manière formidable en France. Donc on ne peut pas dire qu'il était tellement anti-français. C'était Gavroche, c'était un jeune révolutionnaire français.
Suisse.
Qui ?
Dada.
Oui. Non, mais je ne parle pas de Dada, là, je parle de Victor.
Ah, de Victor. Mais en même temps, il y a une chose... ou on pourrait dire qu'il n'est pas non plus venu de nulle part comme ça, c'est que on pourrait dire qu'il procède de l'espèce d'hystérie comique de certains, d'un certain théâtre fin 19e comme Feydeau, où il y a
je dirais plutôt, non, c'est pas le lien avec Feydeau, je crois pas. C'est plutôt le lien avec Jarry, c'est plutôt le lien avec Hubert.
Non, mais ça, bien sûr, mais ça, c'est évident, ce lien-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait eu.
Je pense que c'est important de dire des choses évidentes.
Bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des prémices dans cette espèce de théâtre?
Oui, oui, bien sûr. Je pense que
Labiche,
c'est pas pour me vanter, mais il fait chaud. Évidemment, on n'est pas loin. Mais c'est tout ça approche petit à petit de cette espèce de révolte contre le bon sens, le sens unique, les civilisations fermées, les trucs bouchés, etc. Ouais, cet esprit de sérieux qui est le cholestérol de l'imaginaire qui finit par boucher les idées. Bah, tout ça, évidemment, craque depuis un moment. Mais, à ce point-là, non.
Nous allons maintenant entendre Roger Vitrac. Il est interviewé par Georges Charbonnier et cet extrait de Paroles de France du 27 juin 1952. Et c'est une diffusion posthume et un ultime enregistrement de Vitrac car il était mort le 22 janvier de la même année.
Paroles de France.
Une émission présentée par l'Alliance française de Paris.
Paroles de France présente un entretien de Georges Charbonnier avec Roger Vitrac.
Roger Vitrac. Une revue a publié récemment un article d'André Monroy dans lequel l'écrivain distingue l'esprit et l'humour. Pensez-vous qu'il y a lieu d'établir cette distinction et pour quelle raison?
Ah oui, certainement. Je crois que l'esprit et l'humour sont deux concepts, sont deux notions différentes, enfin entièrement différentes. Et je crois même que Monroy, dans son article, a tendance à ne pas assez les distinguer, n'est-ce pas, enfin, à les confondre quelquefois.
Oui, il en fait un peu une distinction géographique. L'esprit est une chose française et italienne, alors que l'humour serait une chose anglaise. Est-ce que vous êtes d'accord?
Ça, je crois que l'humour n'a pas de patrie, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a de l'humour. Évidemment, en France, on est moins sensible à l'humour anglo-saxon, mais il y a une sorte d'humour qui, sans être du même ordre, n'est-ce pas, est aussi valable.
Mais vous pensez tout de même que l'humour aurait une origine anglo-saxonne?
Oui, je crois plutôt qu'elle a une origine irlandaise. Je crois plutôt à l'humour pur, n'est-ce pas, serait plutôt irlandais qu'anglo-saxon. Je trouve qu'il y a une grande différence entre, par exemple, l'humour de Dickens, n'est-ce pas, et l'humour de Swift. Oui. Pour moi, Swift est un véritable humoriste et Dickens est un petit humoriste, si vous voulez.
Et ça, et Shaw, Synge, au contraire.
Ah, Shaw, au contraire, Synge et Swift, bien entendu. Et surtout Bernard Shaw.
Vous estimez donc que l'humour aurait une origine irlandaise. Est-ce pour cette raison que vous m'avez dit un jour qu'il était vert?
Oui, en effet, je crois que le pavillon de l'humour est vert comme le pavillon d'Irlande. Et il est même... Il porte même une harpe d'or comme le pavillon d'Irlande parce qu'il est poésie en même temps.
Jean-Michel Ribes, est-ce qu'au fond, avec tout ce qu'on a dit déjà dans la première partie de ce personnage en personne, Victor n'est pas une pièce contre la famille, n'est pas une pièce sur l'enfance, mais n'est pas d'une certaine façon une pièce sur la condition du génie?
Oui, ça me semble plus intéressant parce que l'éternelle grille d'analyse qui dit, bah, voyez, il est contre la famille, il est contre le pouvoir du père, il est contre la société. C'est vrai que ça, c'est un petit peu le remettre dans un endroit où il n'est pas, où la pièce n'est pas, à mon avis, parce qu'elle est beaucoup plus forte que ça, beaucoup plus délirante que ça, beaucoup plus jaillissante que ça. En effet, je crois que je suis un garçon extrêmement intelligent, répète-t-il plusieurs fois, et cette capacité de saisir l'instant, d'être en avance de ce qui se dit, de casser le conventionnel, est en effet quelque chose qui est quand même du génie, proche du génie. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose là, il y a une tentation là. Et là encore, on comprend combien Artaud, je parlais de Folie tout à l'heure, parce que Artaud est aussi quelqu'un qui côtoie le génie et qui le côtoie jusqu'à sa forme la plus excessive. Mais on sent là qu'il y a quelque chose. Et c'est tout à fait juste, car je pense que le génie, une des caractéristiques du génie, est évidemment d'anéantir les règles.
Alors, une chose très étrange, et je le disais dans ma présentation, c'est que Victor a connu son vrai succès en 1962. Et ce vrai succès est dû à la mise en scène de quelqu'un qui avait connu Vitrac, mais ça ne suffit pas, mais qui a l'air tellement éloigné de Vitrac, et c'est Jean Anouilh.
Oui, et en même temps, pas tellement. Il y a une deuxième mise en scène que vous n'avez pas citée, qui a été un grand succès, c'est une, à la Comédie française de Jean Bouchot, qui avait fait une très très belle mise en scène, et ou qui avait vraiment donné à Littrac son...
En 46.
Non, c'était en plus tard. C'était plus tard.
Parce qu'il y a eu une reprise en 46, et celui qui jouait Victor, de manière assez amusante, c'était un certain Michel Deray, que vous connaissez sûrement, mais pas moi.
Moi, je le connais très bien, parce qu'il a joué une de mes pièces.
Ah bon, alors, vous m'assurez que le Michel Deray est le petit-fils du général Galliani?
Oui.
Eh bien, voilà, un anti, une pièce anti-militariste, quand même, qui n'est pas que ça, mais jouée par, Michel Deray.
Oui.
Quel est le point de contact, selon vous, entre Anouilh et Vitrac, à part le fait qu'ils se soient connus?
D'abord, je pense qu'il y a, quelque chose qu'on a oublié chez Anouilh, c'est que c'était quelqu'un de tout à fait cocasse, qui a apporté dans la dramaturgie, dans le théâtre français, des choses cocasses, le bal des voleurs, des choses comme ça. C'était quelqu'un aussi qui avait beaucoup travaillé dans la publicité, c'est-à-dire dans une capacité à essayer, enfin, ce qu'on appelait la réclame à l'époque, mais qui était quelqu'un qui avait donc obligation de trouver des idées à côté, ailleurs, etc. Et comme quand Gabin disait, moi j'ai tout appris, la meilleure école c'est le cabaret, je me demande si cette espèce de d'écriture à côté dans le théâtre n'a pas été nourrie aussi par cet exercice d'être un publicitaire à l'époque où il fallait vraiment tout inventer. Et je trouve qu'il y a des pièces d'Anouilh, pas toutes, après elles se sont un tout petit peu rendues conformes, mais qui sont quelque part des cousines éloignées de celles de Vitrac.
Et peut-être il y avait un petit point de contact de sensibilité, puisque Anouilh a écrit une pièce qui s'appelait « Tu étais si gentil quand tu étais petit ». Il avait ce truc de l'enfance bafouée, qui est un petit point aussi qui existe dans Roger, non? Dans Victor.
Oui, mais aussi dans Roger, parce que je pense que la petite biographie que vous avez faite en début d'émission, je pense que l'enfance, de s'en faire de l'éternel poncif de l'autobiographie, mais je pense que la jeunesse de Roger Vitrac n'a pas été facile.
Ah, tout à fait, oui, il a vu son père tromper sa mère, avoir des maîtresses, perdre de l'argent, sa mère accepter ça, donc il y a une révolte d'un enfant bafoué chez Vitrac.
Oui, on est dans il y a une homothépie avec la pièce.
Oui. Mais ça ne suffit pas pour faire un chef-d'œuvre.
Non.
Sinon, tous les enfants souffrants seraient des génies.
Oui. Ils le sont, mais après, ils arrêtent d'écrire.
Oui, ou ils ne commencent même pas. Qu'est-ce que vous diriez de l'exclusion très, très rapide de Vitrac du groupe surréaliste? Et vous avez employé l'expression dadaïste, et on a parlé du dadaïste. Pour moi, c'est plus une pièce dadaïste que surréaliste.
Oui, absolument. Vous avez très bien défini quelqu'un, par ailleurs, que j'aime beaucoup quand il écrit Nadja, etc., qui est breton. Donc, vous avez dit le général breton qu'il est resté.
Gendarme, le fils de gendarme restait gendarme.
Oui, il restait gendarme, oui, absolument. Là, il y a quelque chose, je ne sais pas quoi, on n'avait pas le droit de sortir des règles. Il fallait avoir les mains sur la couture du pantalon surréaliste, il fallait rester dans les manifestes. Donc, puis il n'y a pas que lui, il y a une bordée de grands. Jusqu'à Picabia, enfin, je veux dire qu'il s'est fâché avec Breton, et même si Breton, quand il l'a enterré, a redit « je me suis trompé de ça », il y avait un autoritarisme qui était presque dadaïste, d'ailleurs, de la part de Breton, qui était incroyable, quoi.
D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais le premier écrivain qu'a connu Vitrac à Paris, et c'est lui qui l'a introduit auprès de tous les autres, c'est Crevel, et Dieu sait que Crevel a souffert sous Breton.
Oui. Mais d'un autre côté, Vitrac était très fier au début d'être adoubé par Breton.
Bien sûr.
Très fier, il dit « je suis son ami ».
Mais est-ce que vous ne pensez pas, il y a une question de date, et ça, vous qui êtes auteur et directeur de théâtre, et vous savez très bien l'importance des dates de création, c'est que je me demande si le premier échec de Victor, qui date donc de décembre 28, ne vient pas du fait que c'était un peu trop éloigné de la guerre de 14 pour plaire par le côté un peu ostensiblement antimilitariste, etc.
Un référentiel aussi.
Voilà, et alors qu'on rentrait déjà... Cocteau venait de publier un livre en 26 qui s'appelle « Le rappel à l'ordre » et qui signifiait déjà qu'il fallait arrêter les conneries, quoi.
Oui. Ça, je mesure pas bien parce que je pense que ça dépasse ça. Parce qu'après, si vous voulez, c'est un petit peu comme tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, quand Vian fait le goûter des généraux. C'est vrai qu'il l'aurait fait bien après, ça aurait peut-être pas été aussi saignant que ça l'a été. Peut-être, mais pour moi, si vous voulez, je trouve pas que la pièce de Vitrac la pièce de Vitrac ne se résume pas à l'antimilitarisme.
Ah non, bien sûr.
Mais par contre, ce que je crois de tout à fait juste, c'est que, en effet, quand vous parlez de Giraudoux et d'une réinstallation d'un théâtre un peu on pourrait dire les bobos de l'époque, je pense que là, ils ont été dépassés complètement. C'est un peu la même histoire que Stravinsky, je crois.
Ah oui?
Oui. C'est quand tout d'un coup Stravinsky arrive, tout le monde dit que c'est que cette musique épouvantable, les gens sortent, hurlent, à part quelques-uns. Eh bien, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est un peu le même tremblement dans un domaine artistique tout à fait établi et qui a même son avant-garde bien installée. Et tout d'un coup, tout casse. Tout casse parce que tout d'un coup, il y a une autre manière de dire le monde qui n'est pas encore recevable.
Quand je parlais d'antimilitarisme, je parlais de la surface de la pièce et que ce que le grand public peut en voir de plus manifeste. Il y a toujours des malentendus comme ça. Et du coup, je me suis dit que la reprise d'Anouilh était en 62. Et 62, la pièce a été reprise en pleine campagne pour le référendum de 62 qui organisait l'élection du président de la République au suffrage universel, oui. C'est-à-dire un grand retour de l'autoritarisme. Oui. Et je me demande s'il n'y a pas eu un petit goût comme ça d'anarchisme.
Oui, peut-être. C'est-à-dire que comme disait Duchamp, l'œuvre est faite par celui qui la regarde. Donc à ce moment-là, ils l'ont regardé comme ça.
Mais ça n'est pas impossible, peut-être. Non oui. Vous direz que c'est anarchiste?
Je dirais que c'est plus qu'anarchiste, car c'est une pièce qui même détruit l'anarchisme. Comme les vrais dadaïstes que Zara disait, le vrai dadaïste n'est pas dadaïste.
D'ailleurs, pour moi, une des répliques les plus frappantes de Victor dans la pièce et qui est bien au-delà, comme vous le disiez, de l'anarchisme, de l'antimilitarisme et de l'antifamilialisme, c'est « Je meurs de la mort ».
Ouais.
Au fond, c'est une pièce sur le scandale de la mort.
Oui, absolument. Ça me semble exactement l'endroit qui n'a jamais été vraiment abordé à ce point-là encore dans le théâtre. Il y a l'histoire du génie dont vous avez parlé très justement tout à l'heure et l'histoire de la mort. Alors l'histoire de la mort, c'est quoi? L'histoire de la mort, c'est, on pourrait dire aussi presque qu'il reproche à son père de l'avoir mis sur une terre où l'on meurt. Moi, c'est ça qui me... Je trouve qu'au bout d'un moment, c'est étouffant, la mort. C'est étouffant. C'est derrière... derrière quelque chose qui gambade comme ça, qui danse sur les volcans, qui se fout intégralement de tout ce qui a été dit, fait, etc., qui massacre les choses les plus sacrées et les religions les plus salvatrices, je trouve quand même qu'il y a la mort qui est là. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui est quand même une angoisse de Vitrac.
Mais vous le dites dans un sens positif ou négatif ?
Je dis dans le sens de l'angoisse, qui est le moteur probablement de la création, dans ce cas-là c'est positif, mais qui est aussi le moteur du suicide, dans ce cas-là c'est négatif.
Est-ce que, pour finir, enfin ou presque finir, à qui donneriez-vous aujourd'hui le rôle de Victor à jouer?
Je donnerais le rôle de Vitrac à jouer à un acteur avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui travaille beaucoup. Je le donnerai à Michel Lescaut, mais je me demande même s'il n'a pas joué, mais je le donnerai à lui.
Et c'est une pièce qui vous ferait... Vous ne l'avez jamais mise en scène, je crois.
Non, je ne l'ai jamais mise en scène, et comme, hélas, ou heureusement, au Théâtre du Rond-Point, je ne mets en scène que des auteurs vivants. C'est pour ça que j'écris aussi quelques pièces là-bas, parce que je ne me sens pas tout à fait vivant, mais encore pas tout à fait mort, donc j'y ai droit. J'essaie de rester proche des gens qui disent aujourd'hui.
Jean-Michel Ribes, que vous a appris le personnage de Victor ?
Ce que m'a appris le personnage de Victor, et ça m'a fait un bien fou, c'est de revenir à une liberté d'écriture.
C'était Personnage en personne, le 30e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de Margot Channing, créé par Joseph Mankiewicz dans le film All About Eve.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attachée de recherche et de documentation Daphné Abgral, prise de son Éric Boisset.
Vie, le paradis acquis, c'était un grand jeudi, tous les jours paradis.
Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
De l'autre côté de la rue, mon paradis perdu. s'est mis